Décryptage,
Loïc Bussière.
C'est une distinction dont se passerait bien Mayotte. L'île de l'océan Indien était déjà le plus pauvre des 101 départements français, celui avec la plus faible espérance de vie à la naissance ou encore la plus forte proportion de chômeurs. Eh bien, il est aussi aujourd'hui le seul département français à rester confiné quand ses homologues peuvent depuis lundi se projeter dans un après-Covid-19, certes encore fragile. Et la situation pourrait bien durer, à en croire les experts du conseil scientifique qui recommandaient cette semaine le maintien du confinement jusqu'au déclin de l'épidémie, une date que l'ARS estime au minimum à la fin du mois. L'agence régionale de santé qui constate dans le même temps que la population mahoraise est désormais, je cite, déconfinée de fait. À cela s'ajoute l'épidémie de dengue qui poursuit sa progression et l'équation pauvreté-immigration qui n'a que faire du coronavirus. Autant d'éléments qui fragilisent un peu plus le patient mahorais, territoire ultramarin le plus touché par la pandémie. On en parle jusqu'à 19h30 avec nos invités. Bonsoir Claude Valentin-Marie.
Oui, bonsoir.
Vous êtes sociologue, démographe et conseiller pour l'Outre-mer auprès de la direction de l'INED. L'INED, c'est l'Institut National des Études Démographiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation des RFI. Merci également à vous, Laurent Canavat. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la publication de Mayotte Hebdo et de Flash Info Mayotte. Ironie du sort, dites-moi si je me trompe, vous êtes confiné en métropole en ce moment, ce qui ne vous empêche pas de suivre de près la situation à Mayotte.
Effectivement, je devais être à Mayotte, mais voilà, je suis confiné. Mais effectivement, voilà, depuis plus de 25 ans, j'habite à Mayotte et je suis évidemment l'actualité au quotidien, en permanence. J'étais avec le député Mansour Kamardine en ligne il y a quelques minutes encore, donc voilà. Je suis évidemment ce qui se passe.
Très bien. Alors le tableau que je dressais à l'instant en introduction est assez noir, assez fataliste. Alors il ne s'agit pas de montrer du doigt Mayotte, mais bien de comprendre en quoi cette situation, cette crise du Covid-19 vient s'ajouter à un tableau qui est déjà compliqué. Pour les Béotiens, Laurent Canavat, quand on parle de situation sous tension, c'était un peu impensif, hein, quand on parle de Mayotte, d'un taux de pauvreté qui dépasse les 80%, de l'immigration, concrètement, ça correspond à quoi?
C'est une île particulière, avec une histoire très particulière qu'on pourra aborder et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation très délicate. La crise de coronavirus ne fait que mettre un peu à nu, en lumière, les difficultés que rencontrait déjà l'île. C'est terrible, c'est une petite île qui mériterait des fois un peu plus d'attention et d'intérêt pour plein de raisons, mais qui, pour le coup là, souffre d'un isolement, d'un abandon, d'un désert médical, d'une immigration clandestine massive, de violences là qui se réveillent, de problématiques diverses qui, à mon avis, pourraient être résolues par quelques mesures des fois assez simples. Mais bon, je vous écoute.
Claude Valentin-Marie, vous souscrivez justement au tableau dressé par Laurent Canavat, des mesures assez simples pour résoudre pas mal de problèmes dont souffre Mayotte?
Des mesures assez simples, oui, je souscris vraiment à ce qui a été dit. Des mesures assez simples, c'est peut-être moins évident. C'est vrai que la situation actuelle ne fait que révéler des choses qui sont déjà dans le débat et dans la réalité de Mayotte depuis très très longtemps. Enfin, on a effectivement une mutation de la société mahoraise qui est extrêmement importante. On a une dynamique démographique qui est importante. On a tout ce que vous avez cité, un taux de pauvreté qui n'a nulle comparaison, y compris dans les autres départements d'outre-mer. Donc véritablement, on pourra rentrer dans le détail tout à l'heure, on a quelque chose qui, dans les 20 ans qui viennent de passer, ont changé complètement la physionomie du territoire et cette dynamique n'a pas été suffisamment prise en compte pour l'accompagner des structures institutionnelles, scolaires, de santé qui mériteraient d'être mises en place dans la société, dans l'île de Mayotte.
Alors pour revenir à la situation du Covid-19 à Mayotte, Mayotte c'est l'un des départements qui est classé en rouge sur la carte du déconfinement, celle de la circulation active du virus, en rouge vif si on regarde d'un peu plus près. Officiellement il y a plus de 1200 cas, 16 morts. Pour comparer avec la Réunion qui est voisine de un peu plus de 1400 km de Mayotte, la Réunion c'est le triple de la population mahoraise et il n'y a aucun décès sur cette île et seulement 440 cas de Covid-19, ça c'est suffisamment parlant justement pour alerter l'opinion, Laurent Canavat.
Oui, il y a eu un seul cas supplémentaire à la Réunion hier et aujourd'hui aussi. Donc oui, la situation est délicate parce qu'il y a eu un souci effectivement en termes de mise en place du confinement et de mesures de distanciation et autres, notamment du fait de cette problématique démographique et en particulier de l'immigration clandestine. Peut-être ce sont une partie de la population sur les 256 000 habitants qui ont été recensés en 2017. On doit être à peu près à 300 000 à peu près. Il y a près de la moitié qui vit dans une situation plus que précaire, des clandestins, des gens qui vivent en situation irrégulière, qui vivent dans des bidonvilles. On a 40% des logements qui sont des cases quasiment en tôle. Hein. Ce sont des bidonvilles qui sont un peu partout disséminés sur l'île, sur la hauteur de Mamoudzou, de Kungu notamment, et qui effectivement ne permettent pas un confinement. Dans ces logements, plus de la moitié, 56%, n'ont même pas d'eau, d'accès à l'eau, n'ont pas d'électricité. Donc c'est quasiment impossible de faire respecter un confinement. Et c'est cette promiscuité, cette densité de population, on est à 690 habitants au kilomètre carré, donc qui en fait la plus grosse densité de France en dehors de Paris et de la région Île-de-France. Cette densité, cette pauvreté, cette promiscuité, cette clandestinité, ces bidonvilles, on sait que le confinement n'a pas pu être respecté. Les Mahorais, pour une bonne partie, ont pu le respecter, mais malheureusement, beaucoup d'autres n'ont pas pu le faire. C'est dramatique, mais c'est malheureusement la situation qui a posé l'explosion démographique, l'explosion du virus aujourd'hui, oui.
Alors je vais reprendre pour le coup sur cette situation du confinement hein, et de sa bonne application, les paroles très officielles de la directrice de l'Agence régionale de santé de Mayotte, Dominique Voynet, hein, qui dit que ce confinement, il a marché un peu, qu'il a marché au début, les 15 premiers jours à peu près, mais que la population mahoraise, et je le disais dans les titres, déconfinée de fait à présent. C'est vrai ça, Claude Valentin-Marie le confinement n'a pas pu être respecté.
Ce n'est pas qu'il n'a pas pu être respecté, c'est qu'il ne pouvait pas être respecté. C'est très très différent. C'est vrai ce qui vient d'être dit. Moi, je souscris aussi sur les indicateurs qui ont été cités. La densité à Mayotte est absolument extraordinaire, avec des concentrations, comme il l'a été dit, du côté de la capitale, encore plus sur la petite île qui est à côté, où les densités de population sont encore beaucoup plus importantes. La précarité des logements, qui d'ailleurs s'est accrue dans la dernière période intersanitaire, puisqu'on a eu une part extrêmement importante de nouveaux logements qui ont été construits de manière très très précaire, effectivement liée à l'immigration. Je voudrais juste rectifier quelque chose s'agissant de l'immigration. Oui, il y a une part d'immigration irrégulière à Mayotte, mais ce n'est pas 50% de la population qui est en situation irrégulière. On a 45% de la population mahoraise qui est étrangère, ça c'est sûr, et la moitié de cette population est en situation irrégulière. Tout ça pour ne pas grossir les éléments qui sont déjà suffisamment importants, mais c'est globalement l'ensemble de la précarité, y compris la précarité scolaire, y compris la précarité d'habitation, y compris la précarité des niveaux de vie au-delà de la pauvreté, c'est la possibilité de se nourrir, de se vêtir. Tout cela était déjà présent à Mayotte et effectivement une situation comme celle que vient de connaître l'île ne pouvait que mettre un miroir grossissant, exacerber toutes les difficultés que l'île connaissait déjà. Donc, en gros, l'urgence qu'il y avait déjà depuis une dizaine d'années à résoudre les problèmes sociaux de Mayotte, simplement, la situation est telle, ne fait que montrer tout le temps qui a été perdu.
Quand Laurent Canavat évoque à l'instant la situation justement des bidonvilles, appelons les choses telles qu'elles sont sur Petite Terre par exemple, ou encore ce besoin, justement cette absence d'eau courante, on comprend très rapidement qu'on ne peut pas maintenir une population confinée. Et pourtant, ce sont les préconisations des autorités sanitaires, Laurent Canavat.
Oui, alors le préfet s'est exprimé sur avis du Premier ministre il y a maintenant quelques minutes sur les ondes de Mayotte Première pour confirmer que le confinement est maintenu encore une semaine et que, en revanche, ce lundi 18 mai, réouvriront la plupart des commerces. Parce qu'effectivement, ça fait maintenant plus de deux mois que l'île est confinée. Elle est maintenue confinée, mais pour l'économie qui est en train de s'effondrer, les commerces vont rouvrir hors les bars et restaurants. Mais sur toute l'économie, tous les commerces vont pouvoir ouvrir lundi. En revanche, les écoles sont maintenues fermées jusqu'à nouvel ordre. Et un point sera fait en milieu de semaine prochaine pour voir si elles pourront être réouvertes dans la foulée. Sachant que la plupart des maires se sont prononcés, les 17 communes de l'île se sont prononcées pour les maintenir fermés, et qu'une grande partie des parents sont très incertains de remettre leurs enfants à l'école si les écoles rouvraient.
Quand Dominique Voynet, la directrice de l'ARS de Mayotte, parle de risque d'embrasement épidémique, quand le député Mansour Kamardine, que vous évoquiez à l'instant, Laurent Canava, député des Républicains, parle de bombe à retardement pour décrire la situation de Mayotte, ce sont des signaux qui ressemblent quand même à des signaux d'alarme. Est-ce que ces signaux sont vraiment entendus? A priori, non. C'est la réponse qu'on est tenté d'apporter quand on écoute vos propos, Laurent Canava et vous, Claude Valentin-Marie.
Je partage cet avis. C'est vrai qu'on ne découvre pas une situation. Les éléments que nous citons à quelques nuances près, si vous voulez, sont déjà ceux qu'on avait mis en évidence. Les travaux que nous avons menés, par exemple, à l'INED sur les évolutions de la transformation sociodémographique de Mayotte montrent une situation à Mayotte qui se distingue très fortement des autres départements d'outre-mer, à l'exception de la Guyane. On a une situation assez comparable du point de vue de la structure de la population et de la pauvreté entre Mayotte et la Guyane. C'est la composition des populations qui sont différentes, mais le rapport population étrangère-population nationale est à peu près le même en Guyane et y compris au niveau de la maternité, des naissances, etc. On a une situation comparable. C'est vraiment la précarité encore plus forte à Mayotte avec la densité qu'on a indiquée tout à l'heure, mais tout cela n'est pas nouveau. La situation actuelle ne fait qu'exacerber et empêche de se masquer les yeux par rapport au fait, par exemple, très concrètement, ce que vous disiez à l'instant, à savoir que seuls 20% de la population n'a pas l'eau courante. Ça veut dire qu'en vie quotidienne, il faut aller chercher l'eau ailleurs, quelquefois simplement à la rivière, parce qu'on n'a même pas une borne pour avoir de l'eau courante pour se laver tous les jours, c'est pas d'aujourd'hui. Donc dans une situation de pseudo-confinement, bien évidemment, tout cela apparaît comme absolument extraordinaire par rapport aux normes qu'on peut essayer d'appliquer depuis la métropole jusqu'à Mayotte.
Alors on a l'impression justement à vous entendre qu'il y a un côté un peu schizophrène avec des préconisations du conseil scientifique justement qui dit il faut confiner, il faut prolonger le confinement jusqu'au pic de l'épidémie à Mayotte, qui n'est pas encore pour demain, rappelons-le. Et puis en même temps, sur le terrain, des mesures de confinement, comme vous le décrivez, qui sont, on peut le dire, inapplicables, Laurent Canavat.
Oui, alors il faudrait essayer d'imaginer, sur la métropole par exemple, 60 millions d'habitants, qu'il y en ait à peu près 30 millions qui soient, même 20 millions qui soient clandestins. Ces gens-là donc n'ont malheureusement aucun revenu, il faut qu'ils se logent. Donc ils habitent dans les parcs, dans les jardins, dans les forêts, sur les plages, chez les terrains des particuliers ou autres. Et il y a besoin, aujourd'hui à Mayotte, de se nourrir tous les jours. Il y a 150 000 personnes, ou un peu plus, ou un peu moins, qui ont besoin de se nourrir tous les jours. Alors qu'ils vivent d'abord dans des conditions dramatiques, terribles, inadmissibles, indignes, tout ce qu'on veut, malheureusement, il suffit d'y aller, c'est terrible. Il n'y a pas de fosse septique, il n'y a pas de ramassage des déchets, d'abord. Donc c'est des poubelles à ciel ouvert. Il n'y a pas non plus de fosse septique de quoi que ce soit. Donc vous imaginez les toilettes, ce que ça donne. Et donc c'est terrible, mais ces gens-là, tous les jours, doivent manger. Quand les tortues ont été braconnées la semaine dernière, on a découvert pratiquement une trentaine de carapaces de tortues sur la plage. C'est terrible. Mayotte, c'est une île magnifique, exceptionnelle, avec un lagon gigantesque, avec plus de 1100 km² de lagon, avec 195 km de barrière de corail. Il y a une double barrière de corail qui est magnifique. Le lagon a été protégé, c'est un parc naturel marin. Mais à partir du moment où les gens physiquement ont besoin de faire bouillir la marmite, ils coupent les arbres et la forêt primaire qui est sur les hauteurs, qui abrite notamment les maquis et plein d'espèces endémiques, la pluie tombe, la terre, la terrible tombe dans le lagon, étouffe le corail, et la forêt recule, et la pluie ne permet plus d'approvisionner les rivières. Ça, c'est un premier point. Mais dans un deuxième temps, le lagon est pillé, tous ces gens-là ont besoin de manger, donc tous les jours, les champs sont pillés, les propriétés sont pillées. C'est ça qui est terrible, il n'y a pas d'indexation de quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Et je pense que tant qu'on ne regardera pas la source du problème, si on ne voit que les conséquences des problèmes, on pourra essayer de vider l'eau avec une petite cuillère, on ne va pas arriver à grand-chose. Et donc je pense qu'il faut regarder en amont les problèmes et trouver des solutions aux problèmes en amont. Pourquoi cette population aussi nombreuse se retrouve à Mayotte? L'île d'Enfant est à 70 km, et notamment l'Imakele, qui est la région la plus pauvre. Cette région-là, pour y être allé à quelques reprises, les forêts ont été ravagées. la terre meuble, la terre riche qui était dessus, qui servait à la culture, est partie dans la mer. Il n'y a pas de lagon particulier à Anjouan. Et cette terre est devenue complètement inhospitalière. Il y a de la terre dure, de la caillasse, et c'est tout. Mais les autorités comoriennes n'ont pas mis en place sur place ni d'hôpitaux, ni d'écoles, ni de réseaux d'électricité, ni de réseaux d'eau, ni quoi que ce soit. Ces populations-là sont complètement abandonnées. Alors oui, elles se retrouvent à Mayotte en pensant que c'est l'Eldorado. Elles se retrouvent dans une situation terrible, dramatique, inadmissible. Mais il faut regarder d'un côté la situation des clandestins, il faut regarder aussi la situation des Mahorais, parce que souvent...
J'allais y venir, justement, Laurent Canavate. J'allais y venir, puisque vous parlez beaucoup de la situation des clandestins, mais elle n'est pas niée, mais elle n'est pas la seule, effectivement, sur l'île de Mayotte. Quand je parlais, justement, pour revenir à la situation, à la question du Covid-19, des préconisations du Conseil scientifique, où on dit confinons et confinons encore, et qu'on constate que c'est quasiment impossible, effectivement, de confiner une population telle que vous l'avez décrite à Mayotte. Est-ce que tout ça, ça ne renforce pas justement l'impression de déconnexion entre la métropole et le terrain, Claude-Valentin Marie ?
Oui, ça renforce cette impression, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. La déconnexion était quand même forte. Je veux dire, sortons un petit peu de l'immédiat. D'ailleurs, même si j'étais pessimiste, je me dirais, mais tiens, d'une certaine manière, les populations de Mayotte résistent pas mal dans les conditions où elles sont. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on se trouve dans une situation qui serait comparable, par exemple, à ce que l'on a à New York dans les quartiers populaires et les plus défavorisés, où on voit que la mortalité a énormément progressé. Donc à Mayotte, pour l'instant, on n'a pas ça. Alors, est-ce que c'est la jeunesse de la population qui permet effectivement que la résistance se fasse plus ? Est-ce que, d'une certaine manière, les effets épidémiques se manifesteront plus tard ? Je n'en sais rien. En tout cas, ne serait-ce que cette situation particulier et cette résistance de la population de Mayotte à la force du virus mérite qu'on y soit attentif et en tous les cas relativement prudent sur l'avenir. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas savoir. Cela dit, les enjeux qui se posent, en particulier sur la question de l'école, etc., d'accord, les enfants ne vont pas à l'école, mais la situation de la scolarisation globalement à Mayotte ne date pas de cette situation difficile du Covid. Elle est déjà une situation très ancienne à laquelle, depuis 10 ans, on n'a pas exactement répondu. Donc, il y a des enjeux qui apparaissent aujourd'hui. Et effectivement, la situation est au pied du mur. Mais comme pour d'autres situations des départements et territoires d'outre-mer, où il faut répondre aux enjeux concrets de chacun des territoires dans sa spécificité. Et c'est cette dimension que vous évoquiez tout à l'heure qu'il faut prendre en considération et aménager les politiques publiques aux besoins des populations et aux besoins des territoires spécifiquement concernés.
Alors pour conclure, parce que l'heure tourne, Claude-Valentin Marie, Laurent Canavate, je vous pose la question justement à tous les deux. Est-ce que cette crise du Covid-19, est-ce qu'il peut en sortir, c'est un petit peu paradoxal, mais quelque chose de positif, est-ce que ça peut devenir finalement un accélérateur pour trouver les réponses adéquates aux problèmes endémiques de Mayotte, Laurent Canavate, hein, en deux mots?
Écoutez, je pense que la situation est difficile. Oui, les Mahorais se sont battus depuis des années pour être restés français, pour l'éducation, pour la santé notamment de leurs enfants. Aujourd'hui, la situation est à cause du virus est mise à nu. La situation est grave, oui. Je pense que la possibilité, vu la petite taille de l'île, avec des moyens finalement assez limités, d'arranger les choses, a été proposé, a été demandé, a été sollicité à de nombreuses reprises un plan de développement global de Mayotte qui permettrait de compenser, on n'a pas évoqué le désert médical avec 18 médecins de ville en toute structure sur l'île.
Et 400, moins de 420 lits d'hôpital, effectivement.
Oui, voilà, pour un département complet. Donc il n'y a pas de piste longue à l'aéroport. Il faut un troisième quai au port de Longoni. L'île est située entre Madagascar et l'Afrique australe. Et c'est une zone en plein développement.
Et nous n'aurons pas assez d'une émission pour résumer justement la situation à Mayotte. Laurent Canavate, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation d'RFI. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication de Mayotte Hebdo et de Flash Info Mayotte. Merci à vous également, Claude-Valentin Marie, sociologue, démographe et conseiller pour l'Outre-mer auprès de la direction de l'INED.